qui influencent nos vies. Les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Emmanuel Latraverse qui a suivi très attentivement via une émission spéciale sur LCN cette nouvelle composition du Conseil des ministres. Elle est avec nous. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Good. Alors, pas trop fastidieux comme exercice que d'attendre que Christine Fréchette nomme ces noms-là?
Ben oui, surtout qu'on finit par en connaître beaucoup, mais en même temps, c'est l'occasion de... Ce qui est long, c'est qu'il faut comme... C'est une histoire qui se construit, hein, ouais. Au Conseil des ministres, puis c'est de trouver la façon de la raconter à notre public sur le pourquoi un tel est nommé là, quels enjeux ça soulève. Donc, pas mal exigeant là, mentalement de faire ça pendant 4 heures à peu près, en attendant que... Surtout, tout le monde attend le moment où elle va prendre la parole, tu sais.
Exactement.
Parce que c'est la façon dont elle va cadrer ses choix qui est peut-être le plus déterminant, je te dirais, pour la suite des choses.
Tu parles de ça, justement, et on se disait que, oui, c'est un conseil des ministres avec une certaine continuité parce qu'on n'a pas le temps de former des nouveaux ministres dans des postes clés. Mais est-ce que tu as senti qu'on n'était pas dans la continuité au niveau de son discours, justement?
Non, moi, je pense qu'il y a pas mal, il y a des ruptures importantes là, en termes de discours. Le plus important, je pense, et puis c'est incarné là, dans son choix au Conseil des ministres, en est un sur le ton.
Hein? Ouais, hein?
Elle le dit très clairement, là, nous sommes un gouvernement qui va mieux collaborer tout court. Nous serons un partenaire pour le fédéral, les Premières Nations, les PME, les régions, les organismes communautaires. Donc, c'est très clair là, que l'espèce de style de M. Legault qui s'articulait beaucoup et souvent dans la confrontation quand les choses devenaient moins faciles. Là. Mm-hmm. Tu sais, il y avait, moi, c'est ce que j'appelais son poing sur la table sur la passerelle. Là. Tu sais, genre, il arrêtait sur la passerelle, il mettait son poing sur la table, puis il continue, tu sais, il faisait une déclaration choc. C'est clair que Mme Fréchette, de un, on le sait, c'est pas son style du tout.
En effet.
Mais elle a nommé des gens dans son conseil des ministres pour mettre ça en œuvre. Là. C'est pas pour rien qu'elle a nommé, je pense, quelqu'un comme M. Bonnardel comme leader parce qu'on veut une approche plus conciliante. Il faut dire qu'elle n'a pas trop le temps. Là. Elle va avoir, une fois l'étude des crédits passée, il va lui rester 3 semaines pour essayer d'accomplir quelque chose. Donc, elle mise sur le fait d'amadouer l'opposition. Puis elle n'a peut-être pas le choix là, en fin de règne comme ça. À ce chapitre-là, la nomination la plus notable, c'est certainement celle de Jean Boulay comme ministre des Relations canadiennes. Là. Mm-hmm. Depuis début 2022, là, donc tout au long du deuxième mandat, M. Legault avait vraiment misé sur ses ministres les plus nationalistes pour assumer ce rôle-là. Là. On l'a eu entre les mains de François Roberge, puis de Simon Jolin Barrette. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est comme c'est la balance du pouvoir là, dans ce gouvernement-là qui tombe davantage du côté, je te dirais, des ministres et des ténors fédéralistes du gouvernement. Le but, c'est d'essayer d'avoir des ententes, je pense, plus facilement avec Ottawa parce qu'à Ottawa, M. Jean Boulay est vu comme étant plus parlable.
Oui, oui, oui.
En même temps... La ligne entre compromis et compromission, quand tu négocies avec le fédéral, elle est très fine, puis je pense que ça va être là un test de son gouvernement, puis de voir si l'inquiétude, je te dirais, en termes d'unité du parti en ce moment, c'est que la balance du pouvoir soit passée au rouge, entre guillemets.
Ouais, oui.
Est-ce que elle va être rééquilibrée dans sa façon de gouverner. Je pense que c'est une des grandes, grandes questions qui demeurent en suspens.
Ah, c'est clair. Par contre, tu sais, je réfléchis à vote avec toi, Emmanuel, puis je trouve que Jean Boulay, c'est un bon choix. C'est quelqu'un quand même qui a réussi à faire une réforme du domaine de la construction sans qu'il y ait de saccage et de grosses manifestations publiques. Fait que ça, c'est signe de quelqu'un qui est à l'écoute.
Oui, c'est signe de quelqu'un qui sait négocier, qui sait être tough sans mettre le feu, là. C'est un peu ça et donc je pense que c'est la raison pour laquelle elle l'a nommé, mais c'est sûr que dans les rangs plus nationalistes de la coalition Avenir Québec, ça soulève des inquiétudes.
Ben oui, c'est clair.
Mais je pense que pour avoir une entente, tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout avoir dans la vie, là. Elle a 4 mois d'ici les élections pour faire des gains, pour montrer que sa troisième voie, ça fonctionne, qu'elle n'est pas morte, que l'approche caquiste n'est pas systématiquement vouée à l'échec. Donc, si tu nommes un négociateur qui est capable, je pense, à terme de s'entendre à Ottawa parce que tu n'as plus le luxe du temps, justement.
Non, en effet, puis il y a des ententes quand même, des montants d'argent assez importants à aller chercher, je pense notamment en transport en commun, des montants récurrents, puis aussi en habitation, là. Donc deux
ouais, ben,
sujets.
C'est beaucoup en infrastructure, en habitation. Puis on s'entend, c'est des ententes hyper complexes à négocier, là, parce qu'il y a toujours des critères, des clauses, des conditions de reddition de compte fédéral, etc. Comment tu sais, tu prends le... C'est toujours comme essayer de mettre un carré dans un cercle, tu sais, de réussir à arrimer les priorités de Québec avec celles d'Ottawa sur ce genre de fonds financiers-là. Là. Et donc, pas mal certains, d'autant plus que M. Boulay les a faites, ces grandes réformes en termes de droit du travail. Là. Donc là, maintenant, ça va définitivement être ça, son mandat.
France-Hélène Duranceau, qui hérite également du ministère de la cybersécurité et de la transformation numérique, en plus de celui du Conseil du Trésor. Ça va-tu être trop pour une seule femme? Parce que ça me permet de faire le pont avec le fameux DSN, c'est-à-dire le dossier santé numérique. C'est déjà immense comme dossier, ça.
Bien, la réalité, c'est que avant M. Kerr, la cybersécurité était au Conseil du Trésor. Hein?
Ah, OK.
Et donc, c'est comme un retour à une ancienne normale. Le problème qu'il y a eu, c'est que M. Bélanger, qui était le détenteur du portefeuille après le décor de M. Kerr, mettons que de partir en guerre contre Santé Québec la semaine dernière en disant qu'il mettait les données personnelles et la santé des Québécois à risque avec le dossier santé numérique, c'était pas l'idée du siècle pour un gars qui espérait être nommé au Conseil des ministres. Non. Généralement, tu essaies de ne pas faire brûler la ferme, tu sais, avant le festival des récoltes, là. Alors, c'est un peu ça. Puis je pense qu'on veut trouver une façon plus cohérente de mettre en place ces projets-là. Mais dans les faits, de toute façon, le ministère de la cybersécurité n'avait qu'un rôle conseil. Hein. Il n'a pas un rôle décisionnel dans ces dossiers-là. Là.
Oui, on l'avait bien appris avec le scandale Saclic et la commission Galland. Là.
Mais oui, alors c'est pas ce changement de responsabilité qui va changer vraiment quelque chose sur la mise en œuvre de ce projet-là. L'idée, c'est de voir si Santé Québec est capable de le faire atterrir. Puis, à un moment donné, c'est un peu tout le défi avec les réformes de structure qu'a fait ce gouvernement-là. C'est que dans les faits, maintenant, le DSN, comme on l'appelle, c'est plus le bébé d'un ministre, t'sais. C'est le bébé de Santé Québec. Là. Puis c'est à Santé Québec de le mettre en œuvre, puis c'est à Santé Québec de l'opérationnaliser. T'sais. Santé Québec est supposée être une agence indépendante, là. Puis c'est sûr que sous M. Dubé, il gardait les deux mains dedans, là, mais je pense qu'un des désirs de Mme Bélanger puis du gouvernement en général, c'est justement d'avoir profité de ce changement de ministre de la Santé pour réussir à laisser Santé Québec assumer pleinement ses responsabilités avec les risques qui viennent avec, comme on le voit dans le dossier de Santé Québec, du dossier Santé numérique.
Santé numérique, en effet. Et à cet effet-là, les parlementaires sont quand même très nerveux. Puis il faut dire que Gilles Bélanger n'a rien fait pour les rassurer. Je te laisse entendre Marois Risky sur nos ondes ce matin. Entrevue également disponible sur le blvd.fm.
Maintenant, moi, je pense que le Conseil des ministres a été formé. On n'a pas de raison d'attendre jusqu'au 5 mai pour ouvrir le Parlement. Moi, je suis payée pour siéger. Alors, j'aimerais aller à Québec, j'aimerais poser des questions, puis je pense que plusieurs autres députés de différents partis d'opposition aimeraient aussi poser ces questions-là qui sont fort, fort légitimes, parce que si on attend au 5 mai, il va être un petit peu trop tard, le dossier santé numérique va être parti.
Marois Risky demandait ça vers 7h40. Aux alentours de 9h30 ce matin, Sonia Bélanger dit oui, il y aura des parlementaires qui pourront participer à une espèce de brefage technique, justement, du dossier santé numérique. On le rappelle, c'est un projet pilote qui va être implanté dans la région de Montréal et la région de la Mauricie. Est-ce que tu crois que ça va être suffisant pour rassurer tout le monde? Parce que j'entends des choses des deux côtés au niveau des professionnels de la santé. Autant il y en a qui disent « c'est bien trop compliqué, faire une prescription qui me prenait 20 secondes va me prendre 3 minutes », puis autant d'autres qui disent « bien écoutez, on n'a pas le choix, il faut passer par le numérique maintenant ».
Bien, c'est très… Tout changement technologique, là, est un cauchemar et un casse-tête pour les gens qui travaillent avec.
C'est
et toi,
ça.
tu fais de la radio, là. Raconte-moi la première semaine où vous avez eu des nouvelles régies automatisées avec des nouveaux systèmes. C'est-tu vraiment le fun au bureau?
Ben non, c'est une semaine d'adaptation. Puis sais-tu quoi? Je pesais pas toujours ces bons boutons. Puis une chance, j'avais mon ami Mathias à côté de moi pour m'aider, qu'il connaissait mieux.
Mais non, mais alors, tu sais, je pense que les gens qui nous écoutent comprennent, là, que malgré tous les efforts d'une entreprise, OK, pour essayer de faire une transition qui se fait bien, à un moment donné, quand tu changes les systèmes informatiques, même quand tu les changes bien, c'est angoissant, c'est stressant, puis ça va pas bien parce que il y a comme une mémoire, tu sais, moi je fais beaucoup de couture, là, puis il y a ce qu'ils appellent la mémoire musculaire, tu sais, que tes mains, tes trucs, après, c'est comme tricoter, là, tu sais.
Ouais.
Mais là, c'est comme si quand tu as des nouveaux systèmes informatiques, des nouvelles plateformes, il faut que tu réapprennes à tricoter. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Et donc, l'anxiété, je pense, des gens dans le réseau de la santé est normale. Puis elle est d'autant plus normale que c'est pas un réseau où il y a un lien de confiance entre les gestionnaires et entre les gens sur le plancher. Je pense qu'on le voit dans les affrontements syndicaux, médecins, patentes à gaz. Alors, t'es pas dans un climat assez serein pour faire ce changement-là. En même temps, Santé Québec a déjà repoussé la mise en œuvre de ces projets pilotes-là parce qu'on n'était pas prêt. Donc, moi, je te dirais que, comme observatrice, le fait que Santé Québec a été capable de dire stop, ça va être le chaos, là, on reporte au 9 mai, c'est le genre de choses que la SAQ n'a pas fait dans le dossier, ça clique. T'sais? Alors, ça, c'est rassurant. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? On verra, je veux dire, on peut pas, il n'y a personne qui est habilité, je pense, à vraiment se prononcer, si ce n'est qu'il faut qu'on fasse confiance. Le fait, moi, je te dirais qu'on a réduit le nombre de chirurgies, qu'on a réduit le nombre de lits dans les hôpitaux, mais à un moment donné, tu ne peux pas reprocher au gouvernement d'être cow-boy, puis en même temps reprocher au gouvernement de fermer des lits, tu sais, c'est l'un ou l'autre. Si tu fermes des lits, c'est parce que tu crées de la marge pour que les gens travaillent moins vite, pour qu'ils s'habituent, etc. Donc, vu de l'extérieur, le gouvernement, Santé Québec semble mettre en place les bonnes mesures pour que ça se fasse. Mais vu de l'extérieur, c'est la job de l'opposition de critiquer aussi. Là.
De critiquer, d'être présent. Mais en même temps, c'est sûr que ça va être difficile comme implantation, mais avec le fiasco, ça a cliqué, qui a fait énormément réagir dans la population. Si jamais le déploiement de ce projet pilote-là ne se passe pas bien, si c'est un échec, est-ce que la CAQ pourrait se relever de ça?
Non. Ben, de toute façon, la CAQ a déjà de la misère à se relever du dossier SACLIC. Moi, je pense que ce qui complique énormément l'histoire du dossier SACLIC, là, c'est l'absence de Santé Québec dans ce débat-là. On a des médecins qui sont pour, on a des médecins qui sont contre, on a des gestionnaires de CIUSSS qui nous expliquent qu'ils ont tout fait ce qu'il fallait pour réussir à y arriver. Mais le grand Manitou, le responsable, la sécurité des données, de tout ça, c'est Santé Québec. T'sais. Puis ils sont où? On ne les entend pas.
En effet.
Et ça, moi, je pense que ça contribue à l'espèce de climat d'anxiété dans lequel on se retrouve. Avec ce projet-là. Donc, tant mieux si la ministre Bélanger est en train de préparer des séances d'information pour les députés. Je pense qu'il y a un geste de transparence là-dedans qu'on n'a pas vu de la part de Santé Québec et des autres acteurs, justement, puis peut-être que ça serait nécessaire de le faire.
Mais du côté de Santé Québec, on n'a pas nécessairement davantage à retarder le déploiement. Mais du côté du gouvernement caquiste, en voyant ça, puis en connaissant, en ayant conscience des risques que ce déploiement-là comporte, est-ce en sachant que ça pourrait être, entre guillemets, le clou dans le cercueil là, pour le gouvernement de la CAQ, est-ce qu'on pourrait avoir avantage à dire on va essayer de retarder le déploiement pour qu'il n'y ait pas lieu avant les prochaines élections?
Mais ça serait vu un peu comme une décision purement politique et partisane. Là. À un moment donné, tu n'arrêtes pas de gouverner parce qu'il y a des élections dans 4 mois. Je pense que le fait qu'au gouvernement, en général, on se sent assez à l'aise avec ça, c'est la preuve qu'on pense qu'on a ce qu'il faut pour que ça marche, là. C'est ça. Tu ne peux pas avoir une agence comme Santé Québec qui gère, puis un gouvernement qui prend des décisions pour des raisons partisanes. À un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a, le bébé, il faut le faire atterrir, il faut le mener à terme. Puis c'est complètement ridicule là, qu'on soit encore à fonctionner avec du papier, des systèmes qui ne se parlent pas, etc. Il va falloir le faire, ce saut-là, à un moment donné. Là. Puis peu importe quand on va le faire, peu importe quel gouvernement va le faire, je te mets ma main au feu que ça va être anxiogène, puis qu'il va y avoir des gens qui vont être sur la place publique en train de dire que c'est fou, que ça n'a pas d'allure, qu'ils ne sont pas capables.
Ça, c'est sûr, c'est ce qui arrive dans tout changement technologique, qu'il est bien ou non. Mais là, c'est sûr que la CAQ a eu un très mauvais résultat avec sa clique. Emmanuel, on termine le caucus, qui est un segment qu'on a du lundi au jeudi dans l'émission Nageurs sur Boulevard 101, avec les négociations entre le Canada et les États-Unis. Mark Carney, à son entrée à la Chambre des communes aujourd'hui, a mis son pied à terre. On l'écoute.
Ce n'est pas un cas d'avoir une demandeur, un autre supplicant. C'est pas le cas de tout. Like, it's not a case of the United States dictates the terms. We have the negotiation. We can come to a mutually successful outcome. It will take some time.
Ce n'est pas un cas où les États-Unis vont dicter la ligne de conduite, a-t-il dit. C'était mieux dit en anglais qu'en français. On apprenait aujourd'hui via les médias, via notamment Radio-Canada, que les États-Unis demanderaient des nouvelles concessions au Canada pour ouvrir ces négociations-là, notamment en ce qui a trait à l'alcool, à la SAC, donc de revoir les bouteilles américaines, et aussi sur des quotas laitiers. Tu penses quoi présentement de la stratégie de Mark Carney? Moi, je trouve qu'il est en période d'attente. Il se dit, quand, regardons ça, il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent, puis Donald Trump devrait manger une volée, fait que je vais laisser glisser ça tranquillement, mais sûrement vers cette pression-là.
Je pense que tu veux laisser glisser ça tranquillement, parce qu'en attendant le dommage à nos industries de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, etc.
En effet.
Là, maintenant, on a vu que la façon dont ces tarifs-là sont calculés, c'est un effet dévastateur sur des entreprises qui utilisent ces composantes-là. Regarde ce qui est arrivé à Bombardier Produits Récréatifs, BPR, la semaine dernière. Moi, je vois un M. Carney qui ne se laisse pas intimider. Juste avant l'extrait que tu as fait jouer en français, il dit, écoutez, c'est toujours comme ça, les négos.
Oui.
On a un plan. Puis là, il dit, on a du temps, on a des forces, on a des options. Puis là, la journaliste se dit, oui, mais est-ce que c'est acceptable que les États-Unis demandent un prix d'entrée à la négo? M. Carney, il regarde en riant, puis il dit, c'est des négos. Tout est acceptable.
Oui, c'est comme s'il a vu léger.
Le Canada, ça fait un an que ça dure, hein? Puis c'est comme s'il a vu la tactique américaine. Puis il ne faut pas oublier, M. Carney dit toujours, quand il parle des États-Unis, il y a ce qu'ils disent en public, puis il y a ce qu'ils disent en privé.
En effet.
Nous, on s'énerve sur ce qui se dit en public. Lui, il voit ce qui se fait en privé. Comprends-tu? Puis la réalité, c'est que, regarde, alors, le Canada fait le calcul qu'il n'y a aucune raison de payer un prix d'entrée à la négo. OK? Parce que le prix d'entrée à la négo, de toute façon, on l'a déjà payé.
Bien, la taxe sur le numérique.
En renonçant à nos contre-tarifs. On l'a payé en renonçant à la taxe sur les produits numériques. Donc, le prix d'entrée à la négo, le Canada l'a déjà payé. On ne va pas le payer une troisième fois. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 1er juillet, s'il n'y a pas d'entente, là, la Terre n'arrête pas de tourner. Là. L'accord de libre-échange n'est pas jeté aux poubelles. Là. Il y a deux options. Le 1er juillet, tu dis « tout baigne », puis là, ça roule pour un autre 16 ans. Ou tu dis « nous, on va renégocier », puis là, tu es obligé à chaque année d'avoir une échéance pour dire « OK, est-ce qu'on garde le deal ou on ne garde pas ?» Puis tu as 10 ans pour en arriver à une entente.
Mm-hmm.
En quoi, si tu n'as pas d'entente, dans 10 ans, le deal est fini. Donc, pourquoi se ruer, là?
Ouais,
pourquoi aller vite? Pourquoi se mettre à genoux? Parce que la seule chose que peut faire le président américain, de plus que ce qu'il fait maintenant, c'est d'annoncer qu'il va déchirer l'accord de libre-échange. Ça, il faut qu'il donne un préavis de 6 mois. M. Trump, en ce moment, n'est pas dans une position politique pour faire ça.
En effet.
Donc, c'est vrai que c'est un véritable jeu de roulette russe pour le Canada, parce qu'il faut encaisser le coût très élevé de résister pour nos entreprises. Mais en même temps, il y a cette crainte que si on met le doigt dans le tordeur, on ne s'en sortira pas. Donc, on mise sur le fait que M. Trump et M. Carney ont personnellement une bonne relation et que ça, ça va faire qu'à un moment donné, les choses vont atterrir et que le temps est du côté du Canada.
Je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve très rafraîchissant le fait qu'il y a un an, Donald Trump aurait fait cette déclaration-là et on aurait eu des ministres qui se seraient précipités à Washington. Et là, c'est le calme plat. Je suis très heureux de voir qu'on est en contrôle.
C'est ça, exactement. Mais c'est pas le calme plat. Je pense que tout le monde travaille très fort.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, sur la sphère publique, là, c'est plus la panique.
Non, c'est qu'on se laissera pas barouetter puis intimider. C'est un peu, tu sais, les fameuses tasses là, de la reine d'Angleterre, là, keep calm and carry on. Là.
Ouais, exactement.
Ben, c'est un peu le message que veut envoyer M. Carney. Puis on en parlait hier, il s'est doté de ce comité aviseur, là, avec des syndicalistes, des leaders d'affaires, mm-hmm. des avocats, des conservateurs. Ça, c'est comme sa chambre de résonance, sa caisse de résonance pour aller voir si ça passe. Ce qu'il fait, puis pour se donner les moyens de ne pas perdre de vue ce qu'il faut faire en ayant des échos de différents secteurs de l'économie.
Exactement, étant bien positionné sur le terrain. Emmanuel Latraverse, c'est toujours un bonheur. On se parle demain, même heure, même poste.
Très bien, au revoir.
Salut, à demain. Emmanuel Latraverse qui est avec nous dans le caucus du lundi au jeudi à compter de midi. Antonine Iaccarini sera de retour, notamment dans la première semaine du mois de mai. Dans quelques instants, à Boulevard 102.1, on revient sur cette défaite crève-cœur du Canadien de Montréal, 3-2 en prolongation face au Lightning de Tampa Bay. La série est égale 1-1. Et côté local, ici à Québec, on avait en début de semaine une ville de Québec qui se pétait les bretelles, une administration Marchand qui disait « ça n'a jamais autant construit à Québec ». Mais est-ce qu'on construit vraiment selon nos besoins? Est-ce qu'on construit vraiment en fonction de notre capacité de payer ici les citoyens de Québec? Mathias Turcotte a creusé le tout et va nous rapporter des éléments très intéressants. C'est à On en jase sur Boulevard 102.